IDFM Radio, le média valdoisien.
Éric Grenier nous rejoint maintenant sur IDFM Radio, gérant du parc d'aventure Sherwood Park, qui se trouve à Viarm. Bonjour Éric Grenier.
Bonjour et merci de me recevoir.
De rien, avec plaisir. Une nouvelle fois, ça fait peut-être 2-3 ans que vous n'êtes pas venu. Votre fils vient aussi puisqu'il gère cette entreprise familiale à vos côtés. Ça va faire presque 20 ans déjà. Une belle aventure qui se poursuit dans ce bois. Et on est tel un chevalier, tel un autre personnage, en tout cas pour déambuler dans cette forêt avec différents parcours d'acrobranche, mais aussi de multiples activités, notamment du quad. Ça s'est bien développé en 20 ans. C'est de la folie, ça devait être tout petit en 2006. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. On le disait hors antenne, on peut rester toute la journée, même voire un week-end entier. Hein.
Absolument, oui. Je me rappelle encore les premiers jours avant l'ouverture du parc en 2006 où on essayait de défricher la forêt avec une débroussailleuse louée chez Kiloutou. Et ça nous a pris des lustres et on a vite arrêté pour prendre des moyens plus importants. Mais on est vraiment parti de zéro avec quelques parcours d'acrobranche au départ. Aujourd'hui, le parc en compte 40 parcours acrobranche, 42 même, et 550 ateliers dans les arbres, 550 jeux dans les arbres, plus 24 activités parallèles à l'acrobranche qui vont effectivement des randonnées quad, randonnées en trottinette tout terrain et électrique, un labyrinthe géant, une catapulte humaine, etc. Bref, il y a vraiment de quoi y passer beaucoup de temps. On a calculé que pour faire toutes les activités, si quelqu'un voulait faire toutes les activités, il faudrait 2-3 jours au minimum.
Mais il y a un forfait exprès ou pas?
Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un forfait 3 jours d'activité.
Prix d'entrée, je sais pas moi, 100 euros pour profiter de toutes les activités sur 2 jours.
Peut-être qu'on y pense, mais je crois pas.
En tout cas, vous avez un pass illimité, c'est déjà pas mal pour les différents parcours d'acrobranche.
Hein. Voilà, on a un pass à la journée, contrairement à beaucoup de parcs d'acrobranche qui font des passes de 3 heures. C'est souvent la norme dans ce domaine. Nous, on a un pass à la journée. Vous pouvez arriver théoriquement à 10h du matin à l'ouverture et partir le soir à 19h à la fermeture sans être descendu des arbres. Faut quand même avoir la santé, hein, parce que c'est très fatigant. Et beaucoup de gens interrompent leur parcours dans les arbres pour aller manger quelque chose le midi ou pour faire d'autres activités, comme par exemple du tir à l'arc, pour faire le labyrinthe, pour promener les enfants sur un poney, etc. Bref, il n'y a que l'embarras du choix pour occuper une journée complète.
Donc on mange sur place, bien évidemment. Vous avez différents points de restauration, frites, burgers, des desserts, des boissons.
Absolument, on a des petits repas qu'on propose aux clients sur place et qu'ils peuvent déguster sur place sans sortir du parc.
Vous travaillez avec des acteurs locaux aussi?
Au niveau de la restauration,
oui.
Pas tellement. À part une nouveauté cette année, c'est pas vraiment de la restauration, mais c'est un produit que nous allons vendre sur le parc. On a maintenant des ruches à Sherwood Park et on produit notre propre miel et il sera vendu au public. Donc, avis aux amateurs, ceux qui aiment le miel auront un miel de très bonne qualité. Je dirais pas bio parce que pour avoir le label bio, c'est très particulier, mais en tout cas, les abeilles se ravitaillent dans la forêt et la forêt n'est pas traitée, donc sans pesticides.
À partir de quel âge déjà des parcours d'acrobranche?
Alors nous on a des parcours qui vont, c'est notre slogan en tout cas, de 2 à 102 ans. Bon, alors je vous cache pas qu'on a très peu de gens de 102 ans qui viennent au parc, mais on a pas mal d'enfants à partir de 2 ans. En fait, dès qu'un enfant est capable de marcher, il est capable de faire certains des parcours qui lui sont réservés. On a tout un ensemble de 8 parcours d'acrobranche pour les tout petits qui vont de 2 à 5 ans, 5-6 ans maxi, après ça les ennuie. Et qui sont protégés par des filets de façon à ce que les enfants n'aient pas à manipuler les mousquetons qui sont trop compliqués pour eux à cet âge-là.
Chaque année, des nouveautés ou des aménagements spécifiques, particuliers. C'est vrai que quelques années en arrière, chaque année, il y avait une nouvelle installation.
Alors effectivement, on s'efforce chaque année d'essayer de renouveler notre offre en proposant des activités nouvelles. Ces dernières années, on s'est concentré sur l'accueil du public. Donc ces 2 dernières années, on a construit de nouveaux bâtiments. On a maintenant 3 bâtiments pour une surface totale au sol de 1400 m². Et dont environ 600 mètres carrés sont réservés au public. Donc ça nous permet de mieux accueillir les séminaires, de mieux accueillir les groupes scolaires, de mieux accueillir les centres de loisirs et bien entendu le grand public. On a maintenant une très grande terrasse extérieure pour les gens qui se restaurent au snack.
Vous ouvrez en règle générale toujours en mars.
On ouvre toujours le dernier week-end. Pardon de vous couper. Pardon. Le dernier ou l'avant-dernier week-end de mars, donc en 2025, on a ouvert le week-end dernier et on sera ouvert pendant donc les mercredis, samedi, dimanche, bien entendu, et toutes les vacances scolaires plus les jours fériés.
Vous ouvrez avant finalement les autres parcs d'activités, puisque la plupart c'est en règle générale début avril. Hein.
C'est exact. On a choisi d'ouvrir un petit peu avant pour se mettre en jambes tranquillement, puisque ça permet avec peu de fréquentation à cette période-là, puisqu'il fait généralement assez froid et souvent pluvieux, de mettre dans le coup les nouvelles équipes, puisque chaque année, on recrute une partie de l'équipe qui est nouvelle et qui a besoin de connaître le parc, de connaître les procédures, de s'intégrer dans l'équipe des anciens. Et pour ça, des week-ends tranquilles comme fin mars sont parfaitement adaptés.
C'est des animateurs, animatrices qui sont fans d'acrobranche, fans d'escalade, qui connaissent bien en tout cas les règles de sécurité.
Alors, ils sont pas forcément fans d'escalade, mais en général, ce sont des gens assez sportifs que l'on forme via notre syndicat, le SLA, Syndicat des loisirs actifs, qui a un organisme de formation interne par lequel ils sont formés au diplôme du CQP-OPAH, donc Certificat de qualification professionnelle d'opérateur de parcours d'aventure en hauteur. Et c'est ce diplôme leur permet d'assurer la surveillance des parcours. Il leur permet également d'intervenir si un client a un problème, s'il se trouve en difficulté parce qu'il est fatigué, il peut plus avancer, ou parce que techniquement il est tout. Hein, on a des parcours très difficiles. Hein, certains, moi, je suis pas capable de les faire, par exemple.
Comme les pistes. Voilà. Il y a différentes couleurs.
Exactement, comme les pistes de blanc à noir. Nous, on a aussi des parcours blanc, vert, bleu, rouge, noir. Et les noirs sont vraiment extrêmement difficiles. Moi, personnellement, je suis incapable de faire les parcours noirs.
Il y a beaucoup de sportifs qui viennent?
Oui, il y a beaucoup de sportifs. De ce fait-là, c'est qu'on a choisi d'avoir une offre très vaste en termes de difficultés. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer des défis, qui s'attaquent aux parcours les plus difficiles. D'ailleurs, il y en a pas mal qu'on descend avant la fin, hein, parce qu'ils n'arrivent pas au bout. Ça arrive assez fréquemment, mais ça permet véritablement de se dépasser si on le souhaite.
Donc là, sur cette période, du coup, c'est plus des centres de loisirs qui viennent. Bon, après, le week-end, c'est un peu tout le monde, mais en ce moment, la fréquentation commence tout doucement, mais sûrement. On se rapproche de Pâques, donc là, il y aura beaucoup plus de monde par la suite.
Alors, c'est exactement ça. On a quelques centres de loisirs et des écoles qui ont commencé à venir. Il y a un ou deux groupes par jour pour l'instant et ça va monter crescendo où on aura bientôt beaucoup plus de monde en journée. Enfin, pendant les vacances de Pâques, par exemple, on a déjà des journées avec des réservations à plus de 800 personnes. Et au mois de juin, ça monte à plus de 1000 personnes jour en réservation.
Vous êtes ouvert de mars à octobre à peu près?
On est ouvert, donc je disais, le dernier week-end de mars en général, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, donc fin octobre, début novembre, en général c'est vers le 2-3 novembre que ça s'arrête.
Ça représente à peu près entre 130 à 150 000 visiteurs par an?
C'est ça, l'année dernière on a fait 120 000 visiteurs, mais c'était une mauvaise année du fait qu'il a plu pendant quasiment 5 mois d'affilée, les 5 premiers mois qui sont aussi les plus importants pour notre exploitation, ont été extrêmement pluvieux. Bon, on l'a beaucoup ressenti. Mais en 2022, on a fait 150 000 visiteurs.
Donc la pluie, ça, c'est pas très bon pour vos affaires, effectivement. Puisque vous êtes en extérieur, en plein air, et en règle générale, si la pluie est là, c'est pas hyper méga agréable de faire des parcours d'acrobranche ou des structures gonflables ou autres activités que vous proposez.
C'est exact. 100% de nos activités sont en extérieur. Et de ce fait-là, c'est vrai, quand il pleut, c'est moins agréable. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité, je tiens à le dire, parce que beaucoup de gens pensent que c'est dangereux quand il pleut. C'est pas plus dangereux que quand c'est sec. ça glisse un petit peu, faut faire peut-être un peu plus d'attention, mais c'est pas, il y a pas d'enjeu de sécurité parce qu'on peut pas tomber d'un parcours accrobranche. On est attaché par un mousqueton et un crochet. Le crochet, on peut pas l'enlever de la ligne de vie. Mais même si c'est pas dangereux, on peut pas dire que c'est très agréable de faire des parcours dans les arbres sous la pluie.
Vous vous fermez de toute façon s'il pleut fort, vous le voyez la veille et des fois.
Non, on ne ferme jamais.
Ah non, vous ne fermez jamais.
On ne ferme jamais. On a toujours une fréquentation minimum en cas de pluie.
Mais du coup, vous avez moins de personnel. Peut-être non.
On a juste le personnel, du moins.
Parce que ça aussi, ça a des coûts importants.
Bien sûr.
De prendre l'intégralité du Père Noël, alors que du personnel, pardon, du Père Noël, j'ai dit moi, du personnel sur un week-end pluvieux, vous allez perdre des sous parce que vous savez que vous allez pas faire beaucoup d'entrées, donc il y a une partie du personnel qui reste chez eux en attendant que le soleil revienne en quelque sorte.
C'est ça plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait on programme à peu près les mêmes effectifs tous les week-ends, comme on sait pas trop à l'avance quel temps il va faire et la météo est extrêmement changeante, donc on peut pas être certain même le jour J que la météo sera exactement telle qu'elle a été prévue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on débraye, on programme les gens et puis on les débraye, on les appelle en disant bah écoute, aujourd'hui c'est pas la peine de venir, on n'a pas grand monde, donc reste chez toi, repose-toi et puis on te reprogramme la semaine prochaine.
Donc c'est des contrats particuliers, spécifiques, ce sont des saisonniers, il y a certains qui sont en CDI aussi.
Alors on a une douzaine de personnes en CDI et tous les autres ce sont des saisonniers qui ont un contrat qui court de avril en gros, fin mars, début avril, jusqu'à fin octobre. Certains plus courts que ça, donc on a certains qui embauchent fin mai et puis qui s'en vont fin septembre. Enfin, on ajuste les effectifs à la période pour faire face à la fréquentation, puisque notre fréquentation suit une courbe en cloche, hein, avec un pic en juin-juillet. Ça permet d'être très souple sur la gestion des effectifs.
Le paintball, on peut le pratiquer quand même avec la pluie. C'est peut-être une des activités où c'est pas grave, là. On se lâche, on va être trempé, mais bon.
En fait, on peut pratiquer toutes les activités avec la pluie. Ça pose aucun problème pratique. C'est le côté agréable. Alors, effectivement, le paintball, ça peut être rigolo sous la pluie. Ça rajoute. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire
du
quad aussi
sur la. Ou on s'allie encore plus parce que.
Non, on s'allie encore plus dans ce cas-là. Parce que les gens aiment bien se jeter par terre, etc. Ramper des fois et sous la pluie, bah, on sort couvert de boue. Il y en a pas mal aussi qui aiment bien faire du quad sous la pluie parce que ça glisse, c'est un peu plus fun. Donc c'est pas un obstacle la pluie pour plein d'activités, c'est juste que bah faut aimer l'affronter quoi parce que il fait plus froid en général,
Puis d'être trempé, c'est pas forcément hyper méga agréable.
On peut se protéger quand même.
Oui, puis après on peut se changer hein.
Exactement.
Par la suite derrière parce que une activité paintball ou même du quad, ça peut être 30 minutes, 1 heure.
Alors le quad c'est toujours 1 heure, initiation comprise. Le paintball ça varie selon le nombre de billes que l'on achète en fait. Hein. Les premiers forfaits sont à 200 billes, mais on peut avoir en billes illimitées si on le souhaite. On a des forfaits billes illimitées où on peut tirer comme un fou pendant 1 heure et demie en rechargeant au fur et à mesure, donc sans économiser les billes. Parce que si on a que 200 billes, bien évidemment. On tiendra pas 1 heure et demie, ou alors faut vraiment faire des économies sur les billes qu'on utilise.
Nous sommes toujours avec Eric Grenier sur IDFM Radio, gérant du parc Sherwood Park qui se trouve à Viarmes, chemin des Rouliers, la ligne H pour venir jusqu'à chez vous. C'est direction Luzarches, hein, Gare du Nord. Si vous venez de Paris, donc un train à Gare du Nord, direction Luzarches, et on s'arrête à Segy.
C'est exactement ça. Et de Segy, la gare de Segy se trouve à peu près à 300-400 mètres du parc. Donc on a un petit bout de chemin à faire à pied et on est au parc et on peut y passer la journée. Il y a des trains toutes les demi-heures le matin et le soir. Et dans la journée, ça passe à un train toutes les heures.
C'est pratique. Merci d'être avec nous. On se retrouve d'ici quelques minutes. On parlera peut-être un petit peu de vos 20 ans l'année prochaine, mais aussi des événements spécifiques. On l'a évoqué, il y a Pâques, ça se rapproche très vite, donc il y aura une chasse, des chasses pour découvrir des indices et trouver des œufs, mais aussi des nocturnes. Et puis, au moment de la Toussaint, on vient se faire peur à Sherwood Park. À tout de suite sur IDFM Radio.
Salut, c'est Hélène Sio sur IDFM Radio.
Je me connaissais toute à sortir par la langue.
Infotrafic sur IDFM Radio.
Spécial transport en commun avec des travaux et les bus de remplacement sur la ligne E du RER jusqu'au 9 mai du lundi au vendredi à partir de 22h45. Le trafic est interrompu entre Nanterre-la-Folie et Chelles-Gournay sur la ligne D cette fois-ci. On nous signale des perturbations jusqu'au 29 avril. Le week-end, le trafic est interrompu entre Comble-la-Ville, Quincy et Melun. Et aussi sur la ligne B du RER jusqu'au 25 avril, sauf 18 et 21 avril, du lundi au vendredi à partir de 22h45, le trafic est interrompu entre Châtelet-Les-Halles et Mitry-Clay, aéroport Charles de Gaulle de TGV. Bonne journée avec IDFM Radio. Votre flash valdoisien avec 100% d'énergie renouvelable. Jeudi 27 mars, la ville de Garges a dévoilé l'état d'avancement du chantier de géothermie qui permettra de chauffer 9300 logements avec une énergie renouvelable. Le but, exposer un nouveau type de chauffage, plus économique, écologique et même social, indique Benoît Gimenez, maire de Garges. Une centaine de logements privés d'eau, c'est la conséquence d'une rupture de canalisation qui a eu lieu dimanche 6 avril à Grelais, route de Montmagny. Les pompiers du Val d'Oise ont été alertés à 4h38. Les secours épaulés par les techniciens de Veolia ont dû maîtriser l'inondation sur la voie publique puisque 2000 mètres cubes d'eau se déversaient par heure. Plusieurs chantiers sont prévus sur la ligne H du Transilien. SNCF Réseau prévoit des travaux d'entretien et de régénération des voies pour ce mois d'avril. Sur l'axe Paris-Nord, Persan-Beaumont via Montsou-Maffliers en semaine, sauf lundi 21 avril, la circulation sera interrompue dans les deux sens. En fin de soirée, dernier train au départ de Paris-Nord à 22h34 et le week-end du 19-20 avril, la circulation sera interrompue entre Épinay-Villetaneuse et Sarcelles-Saint-Brice dans les deux sens pour des travaux préparatoires à la suppression du passage à niveau de Deuil. Et aujourd'hui, mercredi 9 avril, entre 9h et 16h, le forum à venir revient pour une troisième édition. L'événement accueille plus de 50 exposants nationaux et internationaux de tous les horizons. Un nouveau rendez-vous incontournable pour toute la jeunesse qui cherche à construire son avenir sur les terrasses du Val d'Argent à Argenteuil. C'était vos dernières informations valdoisiennes sur IDFM Radio.
La matinale.
De 7h à 9h30, c'est la matinale avec Christophe.
Réveillez-vous avec IDFM Radio, votre radio de proximité.
On retrouve Eric Grenet dans un instant. On va parler de tir à l'arc, paintball, quad. Pourquoi pas? Puisque c'est les différentes activités que propose Sherwood Park à Viarmes, le plus grand parc d'aventure de France. Et nous avons la chance d'avoir son dirigeant aujourd'hui. Et puis pour Pâques, il y aura une chasse aux œufs géantes ainsi que des ateliers créatifs. Merci de nous rejoindre en DAB+, ou encore sur le 98 de la bande FM.
Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara, robô nem se fala. Me apaixonou, uou. Mas calma aí, conversível. Sei que cê quer isso. Eu mesmo, que tá botando o couro pra torar. Cavalo tá andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Pova vai se perguntar. Essa mina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Que mexeu com o menorzão vilão. Te levar, cavalo chave conversível, sei que cê quer isso. Eu mesmo, que tá botando o couro pra torar. Cavalo tá andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Pova vai se perguntar. Quem é essa mina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver. Ela, que mexeu com o menorzão vilão. Que mexeu com o menorzão vilão. Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara, robô nem se fala. Me apaixonou. Na cama e não tô pra relaxar. Forte, forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar. Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo. Repara, morena do cabelo liso. Não sou envolvido, só tô aqui pra me apresentar e depois te levar.
Éric Grenier, toujours avec nous sur LFM Radio, gérant de Sherwood Park sur la commune de Viard. Merci d'être avec nous. Donc ça va faire presque 20 ans l'année prochaine. En tout cas, vous allez souffler votre 20e bougie avec ce parc qui a démarré avec quelques parcours d'acrobranche. Et puis aujourd'hui, c'est une multitude d'activités pour toute la famille de 2 à 102 ans.
C'est ça.
À peu près.
À peu près, c'est un slogan commercial, bien entendu, mais je dois reconnaître qu'on a peu de clients de 102 ans. Mais on a pas mal de seniors qui viennent avec les petits-enfants, donc des grands-parents qui souvent ne font pas l'activité, mais qui accompagnent leurs petits-enfants.
Vous êtes arrivé comment sur la commune de Viard, comme ça, vous veniez déjà du Val d'Oise ou pas?
Alors, j'habitais à Viard, effectivement, parce que j'étais avant directeur du domaine de Lassy, qui est un domaine qui appartenait au comité d'entreprise d'Air France, au CCE d'Air France, et dont j'ai été directeur pendant 4 ans. Et notre but à l'époque était d'offrir des activités aux adhérents du domaine différentes toutes les semaines, mais aussi des activités récurrentes. Donc, on se creusait beaucoup la tête pour trouver une offre renouvelée d'activités afin de ne pas lasser le public. Et une année, j'avais créé un petit parc d'acrobranche dans le parc du domaine de Lassy, un parc minuscule. Hein. Il y avait juste 7 ateliers, dont une grande tyrolienne qui passait au-dessus d'un lac. J'avais remarqué que ça plaisait beaucoup au public et ça m'a donné l'idée de créer un parc dans la même région, puisque à l'époque, il n'y en avait aucun. Mais cette fois à titre privé, pas pour le compte d'Air France. Donc je me suis mis en quête d'un terrain et j'ai eu la chance d'en trouver un à 3 kilomètres de là où j'habitais. Après quand même de pas mal de mois de recherche. Et il a fallu 2 ans pour obtenir les autorisations pour construire le parc.
Le 22 mars, c'était la date d'ouverture pour cette année 2025. Fermeture donc après les vacances de la Toussaint, hein, fin octobre. En tout cas, une période qui va être intense pour vous. Et sur les quelques mois de repos, vous avez fait aussi, il me semble, pour Noël, quelques animations sur une année ou pas du tout? Non?
Non, mais non. Par contre, c'est quelque chose qu'on envisage de proposer aux comités d'entreprise qui veulent faire des arbres de Noël. Parce que l'offre dans ce domaine est en train de se restreindre. Il y a de moins en moins d'organismes qui proposent des arbres de Noël pour les entreprises. Et nous, on est en mesure de les accueillir, surtout compte tenu de nos nouveaux locaux, pour des entreprises de taille moyenne, pas forcément les très grandes, qui sont beaucoup trop nombreux pour notre capacité. Mais par contre, des entreprises de taille moyenne pourraient très bien venir faire leurs arbres de Noël chez nous. Et on a pas mal d'activités à leur proposer.
Donc ça ne s'arrête jamais finalement. De toute façon, il faut quand même entretenir, protéger aussi toutes ces installations avec l'hiver, hein. Novembre, décembre, janvier, février. Il y a une protection, des protections particulières pour les parcours d'acrobranche ou les autres activités qui se trouvent à Sherwood Park. Avec le froid, ça s'abîme, ça, voilà.
Alors, les parcours d'acrobranche sont pas très fragiles. Ils souffrent surtout pendant la saison du fait de l'usage du public. Hein. Les gens sont pas toujours respectueux, ni et puis, bah, ça finit par s'user naturellement. Donc, on restaure tous les ans pendant l'hiver tous nos parcours de façon à ce qu'ils soient fin prêts pour la nouvelle saison. Donc, on a besoin de cette période de fermeture aussi pour faire tout le travail d'entretien. Pour ce qui concerne les autres activités périphériques, bien sûr, tout est stocké au sec et au chaud, et ça permet de retrouver le matériel en excellente condition quand reviennent les beaux jours.
Oui, donc c'est des matériaux assez résistants avec le froid, avec la neige, avec le vent.
Oui, tout à fait. Les parcours dans les arbres sont pas fragiles et résistent très bien à ça. On peut pas les démonter tous les ans. Parce qu'en fait, démonter un parcours, c'est le refaire entièrement. C'est pas récupérable, les matériaux ne sont pas récupérables. Donc, ça obligera à les refaire chaque année, c'est pas envisageable. Et puis, un parcours peut durer 7, 8, 10 ans sans avoir besoin d'être démonté et refait. C'est à peu près le temps qu'on compte pour remettre à neuf un parcours.
Chaque année, vous êtes présent aussi sur des salons? En rencontrant d'autres personnes de votre secteur d'activité pour récupérer des idées, pour échanger aussi avec des nouveaux partenaires.
Alors on fait beaucoup de salons, en particulier des salons de CSE, donc pour
qui se trouve en France,
qui se trouve en région parisienne pour l'essentiel, ou dans la périphérie un peu éloignée comme Reims ou Lille. Bon, mais on va pas au-delà, hein, faire un salon à Marseille, ça aurait pas beaucoup de sens. C'est vraiment pas notre zone de chalandise. Mais notre zone de chalandise peut s'étendre jusqu'à des villes comme Reims ou Lille sans problème. On a des clients qui viennent de là. Lors de ces salons, ce sont essentiellement les comités d'entreprise qui sont visés et pour lesquels on présente notre offre à côté de plein de partenaires et de d'établissements similaires aux nôtres ou un peu différents.
Vous faites partie aussi des incontournables du Val d'Oise. Il y a quelques années, il y a eu ce label, en tout cas. Donc, ça permet aussi de faire tout un parcours sur notre département en découvrant Sherwood, mais aussi des monuments, un petit peu tout, en fait, les incontournables. Il faut impérativement aller sur ces lieux dans le Val d'Oise. C'est une opération qui existe depuis combien d'années, ça?
Alors, ça existe depuis 4 ou 5 ans, si je ne me trompe. C'est une initiative du château de Chantilly qui nous a contactés, ainsi que 7 autres partenaires, c'est-à-dire qu'au total, on est 9. Il y a le château de Chantilly que j'ai déjà cité, le château de Compiègne, le château de Pierrefonds, l'abbaye de Royaumont, l'abbaye de Chalis, le château d'Écouans, il y a également la mer de Sable et le parc Astérix. Donc ce sont des lieux culturels, historiques ou de loisirs. Hein. Astérix, mer de Sable et Sherwood Park, ce sont des lieux de loisirs. Tous les autres sont des lieux culturels. Et on s'est réunis parce qu'on fait partie de la même région. Alors c'est pas spécifiquement le Val d'Oise, c'est l'Oise et le Val d'Oise. C'est pour ça qu'on s'est appelé les incontournables de l'Oise et du Val d'Oise, parce que ce sont les sites touristiques les plus visités de cette région étendue.
Alors parlons maintenant des différentes activités que vous allez proposer, qui reviennent de toute façon chaque année. Pâques, passage obligatoire, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce sera sur le week-end 19-20 et lundi 21 avril. Hein.
C'est ça, en fait, le 20 et le 21, le dimanche 20 et le lundi 21, on aura une chasse géante aux œufs de Pâques dans le parc, réservée aux enfants, bien entendu. C'est assez classique, mais ça plaît toujours énormément aux familles. Et elle se répétera sur les deux jours plusieurs fois.
Donc ça, c'est un moment aussi très attendu par les visiteurs, les fidèles, les nouveaux aussi, puisque vous mettez en quelque sorte une petite campagne pour dire que bah ça y est, les lapins sont là, il faut les trouver, faut aller chercher les œufs, et ça fait venir une clientèle des fois un peu nouvelle ou pas sur le parc.
On a de toute façon très régulièrement une clientèle nouvelle. On n'a qu'une partie des personnes qui fréquentent le parc qui sont des personnes régulières, généralement des gens qui habitent dans le coin, mais comme on fait beaucoup de communication à l'échelle de toute l'Île-de-France, eh bien on a un public qui est drainé de l'ensemble de l'Île-de-France, et comme je disais, même au-delà, puisqu'on a parfois des visiteurs de l'Est parisien, du Nord de la France. Et donc, les œufs de Pâques font partie, comme le reste, de l'attractivité de Sherwood pour le grand public.
À partir de quand aussi il y a une ambiance un peu médiévale toute l'année, j'ai envie de dire, mais je sais que des fois il peut y avoir des spectacles ou une thématique un peu plus poussée dans ce sens-là.
Alors, on ne fait plus de spectacles comme on a fait une époque. C'est vrai qu'on a une année, on avait fait carrément un mois complet de spectacles de tournois de chevalerie médiévale avec des combats d'épées, etc. On a arrêté ça, mais par contre, l'ambiance médiévale est toujours présente à Sherwood Park au travers de la décoration, d'une part, au travers de certaines activités, comme le tir à l'arc, par exemple, ou au travers de la façon dont nos collaborateurs sont habillés, puisqu'ils sont tous habillés en chevalier médiéval, même les chevaux, hein, puisqu'ils portent un caparaçon de tournoi de chevalerie, ce qui plonge les visiteurs dans une ambiance différente de la plupart des parcs d'Acrobranche, qui sont plus banalement thématisés sur la nature ou autre. Nous, on a vraiment une thématisation particulière.
Bon, là, ça fait pas peur. Hein. Faut attendre vraiment le mois d'octobre, hein, période de la Toussaint, Halloween, pour avoir peur. La nuit tombe en plus rapidement. Vous êtes ouvert. Et là, il y a des soirées aussi spécifiques. Hein. On peut faire des parcours d'acrobranche, faire d'autres activités en pleine nuit, à la tombée de la nuit. Ça doit être aussi quelque chose d'impressionnant.
Ah oui, puis cette année, ça a très bien marché. On a eu beaucoup de monde pour nos parcours. Alors, on a des parcours dans les arbres qui fonctionnent normalement, mais aussi, on a un parcours au sol qui est un parcours hanté, où vous avez des monstres, des zombies vivants, hein, des vrais, qui viennent vous accueillir, si on peut dire, pendant le parcours, ou plutôt vous surprendre pendant le parcours, avec une tronçonneuse pour vous découper, ou avec un couteau de boucher pour vous arracher la tête, ou des choses sympathique dans le même style.
Du coup, l'événement, il est interdit aussi à certaines personnes, surtout au plus jeune public.
Alors, on a le parcours est divisé en deux parties,
voilà,
en fait.
La journée plus voilà. Pour la famille, les enfants et
c'est ça. Mais même le soir, on a une partie du parcours hanté qui est réservée aux enfants, enfin qui est accessible aux enfants et aux adultes. Et la fin du parcours, on dit bon, les enfants trop jeunes, vous y allez pas parce que c'est un peu trop.
C'est gore,
voilà, c'est un peu gore, voilà. Et c'est mieux pour les adultes.
Bon, il y aura bien sûr des nocturnes avant, au mois de juin, hein, à l'approche de l'été. Les nocturnes, du coup, faut attendre là, parce que les beaux jours sont installés et du coup, il fait nuit vers à partir de 22h là.
Effectivement.
Même un petit peu avant, mais
voilà. Alors donc, on accueille les gens en général vers 21h et ils s'apprêtent tranquillement, ils mettent les baudriers et puis à 22h, quand la nuit tombe, ils peuvent démarrer les parcours. Ça peut durer jusqu'à 2-3 heures du matin parfois.
Ah oui, carrément.
Oui, oui. Ça dépend des.
Bon, vous allez vous coucher avant quand même.
Ah bah moi en général. Mais on a du personnel qui accompagne les clients jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça dépend des clients, en fait, s'ils ont envie de rester ou s'ils sont fatigués et qu'ils veulent rentrer chez eux. Mais ça permet de découvrir la forêt sous un autre jour. La nuit, il y a des bruits qui sont différents, il y a des odeurs qui sont différentes. Il y a une ambiance qui est complètement différente et on se promène dans les arbres muni d'une lampe frontale pour seul éclairage. C'est pas toujours facile, hein, se lancer sur une tyrolienne sans rien voir de l'arrivée. Ça permet aux personnes qui aiment l'acrobranche de la découvrir sous un jour totalement différent.
Vous avez pas mal de cascadeurs du coup qui viennent, des cascous en tout cas, qui s'essayent à ces activités. Vous voyez aussi de temps en temps des animaux quand le parc est un peu plus calme, puisque c'est dans un bois, donc il peut y avoir des lapins, des renards, des...
Encore il y a 2 jours, j'ai vu un chevreuil. Voilà, à la nuit tombée, et on voit régulièrement des sangliers, dont un, il y a quelques mois, qui a pas vu qu'il y avait une clôture et qui est rentré dedans.
Il a senti les bonnes odeurs, ou je sais pas.
Non, en fait, il était poursuivi par des chasseurs, pour être
il
honnête.
Voilà,
il s'est réfugié, mais il a pas vu la clôture, il est rentré dedans. En pleine course, hein, donc il a failli défoncer le grillage. Donc oui, on voit régulièrement des animaux. La forêt, elle est habitée. Personnellement, je regrette qu'il y ait la chasse, parce que je préférerais que les animaux soient laissés en paix et qu'ils puissent se développer, qu'on les voit plus souvent.
En tout cas, la biodiversité, elle est là aussi. Hein.
Absolument.
Un sacré écosystème, avec aussi du coup l'arrivée des abeilles, comme vous l'avez dit. Hein. Il y a des ruches qui ont été installés dernièrement.
C'est ça. On a eu la première récolte fin 2024, enfin l'automne 2024. On va vendre le produit de cette récolte cette année. Bon, alors, c'est une petite récolte parce que comme il a plu beaucoup, les abeilles n'aiment pas trop ça. Je crois savoir qu'elles ne sortent pas trop quand il pleut, et du coup, la récolte était assez médiocre. Bon, enfin médiocre en quantité, hein, pas en qualité. Le miel est excellent. Et cette année, on espère avoir une récolte bien plus importante.
Un ou deux mots sur l'année prochaine, 2026, les 20 ans de Sherwood Park.
C'est ça.
Vous travaillez en tout cas dessus. C'est important de...
On marquera l'événement, ça c'est certain. Comment, ça reste pour le moment confidentiel, on y réfléchit. Mais l'événement sera marqué comme il se doit. 20 ans, c'est une étape importante dans la vie d'un établissement comme le nôtre, et on espère que le public sera au rendez-vous pour cette occasion.
Eh ben, merci beaucoup Eric Grenier d'être passé aujourd'hui, gérant de Sherwood Park sur la commune de Viarmes. Sherwood Park 95 pour le compte Instagram, sherwoodpark.com pour votre site internet. Vous allez le refaire aussi, vous m'avez dit, en antenne.
Absolument, dans quelques jours, une ou deux semaines maximum, normalement il devrait y avoir un nouveau site internet, beaucoup plus au goût du jour. Ces choses-là évoluant très vite.
Donc c'est beaucoup, beaucoup d'activités. Hein.
Absolument, 25 activités
voilà.
Différentes.
Trottinette, il y a aussi l'Explorer Games avec son téléphone portable.
L'Explorer Games, alors c'est pas avec son téléphone portable, c'est avec des tablettes géolocalisées qu'on fournit et qui permettent de résoudre des énigmes dans la forêt et de retrouver un trésor.
Merci beaucoup Eric Grenier, à bientôt sur IDFM Radio et bon retour à Viarmes.
Merci de m'avoir reçu et à bientôt.
Et on vous le reprécise, si vous voulez connaître les horaires exacts d'ouverture, puisque là, c'est pas ouvert forcément tous les jours, le site internet ou encore le compte Instagram. Bonne journée.
Absolument.